Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à tous et bienvenue. Ici Aurélie pour Erdiwa. Aujourd'hui, nous allons évoquer le champignon sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures et manifestations. Jean-Claude Rochouze, notre invité, éco-éthologue de formation, est là pour nous éclairer sur la question. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour, bonjour.
Visiblement, tu t'es un petit peu spécialisé sur la question des champignons. Donc Jean-Claude, peut-être pourrais-tu nous présenter le champignon de manière très générale. Qu'est-ce qu'un champignon ?
Voilà, les champignons, d'abord, ne sont pas des végétaux. Tout simplement parce qu'ils ne font pas la photosynthèse, ils n'ont pas de chlorophylle, ils n'ont pas de feuilles, ils n'ont pas de pieds, ils n'ont pas de tiges, ils n'ont pas de sève, comme les plantes. Donc, on les exclut des plantes, ce sont les champignons. On dit que leur appareil végétatif est un thalle, T-H-A-2-L-E, qui est formé par des filaments mycéliens. Et ce mycélium, il est souterrain. Donc, en fait, l'essentiel du champignon est souterrain. Alors, comme ils ne peuvent pas, comme les plantes, utiliser l'énergie solaire, on dit qu'ils sont hétérotrophes, comme les animaux et l'homme. Tandis que les plantes sont autotrophes. Elles peuvent utiliser l'énergie solaire et fabriquer leur sucre, leurs protéines, avec l'énergie du soleil. Les champignons ne peuvent pas le faire. Le résultat, c'est que pour les champignons, il y a trois modes de se nourrir, disons. Il y a ce qu'on appelle les champignons saprophytes, qui vivent sur ce qui est mort, sur la matière organique morte. C'est un peu l'essentiel des champignons. Mais il y a aussi les champignons qui sont parasites. Donc, ils parasitent des êtres vivants, qui peuvent être des végétaux ou des animaux. Et le troisième mode, qui est important aussi d'ailleurs, c'est les champignons qui sont symbiotiques, c'est-à-dire qui sont en association avec soit des plantes, soit des algues, dans les lichens. Et là, c'est une association à bénéfice réciproque. C'est-à-dire que le champignon est utile pour la plante est utile pour le champignon. Les deux se développent très bien.
Oui, ce n'est pas parasitaire, justement.
Ce n'est pas parasitaire. Donc, il y a ces trois modes de nutrition pour les champignons.
Alors Jean-Claude, il y a des centaines, des milliers de champignons sur notre terre, divisés en plusieurs classes. Est-ce que tu peux nous les évoquer ?
Oui, alors donc les scientifiques qui s'intéressent aux champignons, on les appelle des mycologues, parce que la science des champignons, c'est la mycologie. Ça vient du grec mucus, champignon. Et alors la classification des champignons, malheureusement, elle est extrêmement complexe. Et elle évolue, bien sûr, comme toute science. Elle évolue, en particulier les analyses d'ADN ont fait évoluer la classification. Si bien que dans les anciennes classifications, il y avait des êtres vivants qu'on appelait les champignons, que maintenant on exclut des champignons. Je prends un exemple, il y a les mildiou, on considérait que c'était des champignons. Bon, maintenant, on les considère comme des oomycètes, mais les oomycètes, on ne les considère plus comme des vrais champignons. Les vrais champignons, on appelle ça les eumycètes, parce que eux, ça veut dire vrai. Donc les eumycètes sont les vrais champignons qui ont des filaments mycéliens. Et dans les eumycètes, alors il y a toute une classification qui est complexe, mais ceux dont on parle le plus, parce que par exemple c'est ceux que l'on cueille et que l'on mange, ce sont les ascomycètes et les basidiomycètes. Alors les champignons, alors ça c'est, par contre c'est général, les champignons se reproduisent grâce à des spores. Ils fabriquent des milliards de spores, c'est incroyable le nombre de spores qu'ils peuvent fabriquer. Mais les spores, alors les ascomycètes, ils les mettent dans des sacs qu'on appelle les asques, donc ils ont des ascospores. Ça fait les ascomycètes, tandis que les basidiomycètes, alors les ascomycètes, c'est par exemple les truffes, les levures aussi, hein, sont des ascomycètes. Et les basidiomycètes, eux, ils portent leurs spores sur des grosses cellules qu'on appelle des basides. Donc, les basidiomycètes ont des spores sur des basides et les ascomycètes ont des spores dans des asques. Bon, ça, c'est les deux grands groupes hein, de champignons. Mais il y a d'autres groupes. Il y a des tout petits champignons microscopiques. Voilà, donc c'est vraiment complexe et il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de grands spécialistes de la classification des champignons.
On va déjà essayer d'intégrer hein, les données que tu nous as apportées. Moi, je crois que le champignon a des vertus, mais il est aussi très dangereux. Est-ce qu'on peut évoquer cet aspect ensemble ?
Voilà, alors donc les champignons ont un côté destructeur, sont dangereux, mais on ne sait point à quel point niveau, ils peuvent être dangereux. Alors, il y a des champignons qui sont parasites des végétaux. D'abord, on pense qu'au niveau mondial, d'où la difficulté, il y a aux environs de 100 000 espèces différentes de champignons. Dans les champignons que l'on peut cueillir en France, il y en a environ 2 000. Et dans le Diwa, moi, je considère qu'il y a plus de 300 espèces différentes de champignons. Dans ces champignons, il y en a qui sont parasites des végétaux. Et ils peuvent les affaiblir et les tuer. Alors, l'infection, elle se fait de deux manières. Les plantes ont des petites ouvertures qu'on appelle des stomates. Donc, le filament du champignon, il entre par l'ouverture de la plante. Et il prélève des substances nutritives dans la sève. Il profite d'une ouverture des plantes. Et la deuxième méthode, c'est on force le filament, écarte les cellules de la plante et pénètre quand même à l'intérieur de la plante. La plante se défend. Hein, les plantes, les arbres par exemple, ont des systèmes de défense contre les parasites des champignons. Mais ça ne réussit pas toujours. Donc le champignon peut faire pourrir le bois, faire éclater le bois. Et ça peut être un danger, par exemple, pour les forêts. Alors, autre problème qui est plus embêtant pour nous, c'est qu'il y a des champignons qui sont parasites des animaux et de l'homme. Donc, on dit que les champignons créent des mycoses. Les mycoses ne sont pas négligeables, puisque à peu près 10% des maladies de la peau de l'homme sont des mycoses. Alors, dans les mycoses, il y a deux groupes. Il y a ce qu'on appelle des mycoses à dermatophytes, et puis il y a des mycoses à la levure. Alors, les mycoses à dermatophytes, on les connaît. Il y a les candidoses, il y a le pied d'athlète, c'est quand on est sportif et qu'on transpire trop au niveau des pieds, ça fait une irritation, on appelle ça le pied d'athlète. Les fesses rouges des nourrissons, l'érythème fessier du nourrisson, c'est des champignons. Le muguet du nourrisson, ou des personnes très âgées aussi, c'est dû à des champignons. Les teignes des cheveux, les problèmes des cheveux, ça peut être une infection due à des champignons. Quant aux mycoses pour les levures, elles sont plus rares, mais elles peuvent être aussi plus dangereuses, puisqu'elles peuvent attaquer les poumons et l'ensemble de l'appareil digestif. Alors, comment on se défend contre les mycoses ? D'abord, il y a une bonne hygiène. Et il y a aussi la qualité, ça on le sait moins, de la flore bactérienne. On a en nous des milliards de bactéries, mais qui sont symbiotiques à nous, qui font que notre appareil digestif fonctionne bien. Il faut que cette flore bactérienne soit en bon état, mais on a aussi des champignons qui nous sont utiles. Donc il y a une espèce d'équilibre qui se fait entre les champignons et la flore bactérienne. Et c'est par exemple, si vous prenez en excès des antibiotiques, trop d'antibiotiques, les antibiotiques ils sont là pour tuer les bactéries. Mais si vous tuez trop les bactéries, les champignons vont prendre le dessus, l'équilibre va être, il va y avoir une dérégulation et hop, la mycose va apparaître. Et malheureusement, alors en sens inverse, il y a des phénomènes qui favorisent les mycoses. Bien sûr, c'est la mauvaise hygiène, les griffes des chats, le diabète sucré favorise les mycoses, et puis les personnes qui sont immunodéprimées, donc dont le système immunitaire est affaibli, et bien sûr, les champignons là vont l'emporter et on va voir apparaître des mycoses. D'ailleurs, c'était un petit peu pour ça qu'on avait découvert le sida dans les premiers temps, tout premiers temps. C'est parce qu'il y a des mycoses qui apparaissaient chez des gens jeunes. Et donc, on dit, quand ça se fait qu'il y a des mycoses, en fait, c'était une immunodépression.
Déficience.
Et de là, on a eu la découverte du sida. Ça, c'est l'inconvénient parasitisme des champignons. L'autre côté embêtant des champignons, Ben, c'est qu'ils détruisent les aliments en milieu humide. Les champignons, ça, c'est vrai, il leur faut de l'humidité. Mais les milieux humides, ben, existent. Par exemple, à l'intérieur d'un frigidaire, il peut y avoir un milieu humide. Donc, vous voyez vos aliments, même à l'intérieur du frigidaire, se couvrir de moisissures. Donc, il y a un problème de conservation des aliments lié à cet aspect destructeur. Alors, l'autre côté destructeur, qui peut être embêtant aussi, hein, ils peuvent s'attaquer au bois. Mais il y a les maisons en bois. Donc, il faut un traitement spécial. Il y a un champignon qui est particulièrement redoutable de ce point de vue-là. On appelle ça la mérule. C'est un polypore, c'est un champignon qui a des filaments, donc qui attaque les charpentes et qui peut vraiment provoquer de gros dégâts. La maison devient dangereuse. Alors, si la maison est bien chauffée, en général, pas de problème. Alors, il y a des champignons qui sont en association avec les algues dans les lichens. Alors, eux, les lichens, ils s'attaquent à tout, pratiquement, mais ils peuvent s'attaquer aux pierres de taille, aux pierres tombales, donc ils font disparaître les inscriptions sur les pierres tombales. Et puis, dans les grands bâtiments, quand on voit les pierres qui s'usent, l'un des facteurs d'érosion de la pierre, ce sont les lichens. Même le premier facteur d'érosion de la pierre, ce sont les lichens. Alors donc, pour des bâtiments classés, par exemple, ben ça peut être embêtant. Alors, l'autre problème alors que tous les gens connaissent, ben c'est être empoisonné par les champignons. Quand on cueille des champignons tous les ans, malheureusement, il y a des gens qui meurent par les champignons. Bon, c'est moins grave que les accidents mortels de la route, il y en a moins, mais ça existe. Alors, je ne vais pas rassurer les gens, mais il y a au moins 19 types différents d'empoisonnement par les champignons.
On peut en évoquer un ou deux comme ça ?
En gros, il y en a quand même deux catégories. Vous avez les champignons, vous les mangez, qui attaquent tout de suite. Donc au bout de 30 minutes ou 2 heures, vous vomissez, vous avez des nausées, c'est laxatif souvent. Donc là, l'empoisonnement est rapide.
Foudroyant.
Voilà. Et puis, il y a les champignons alors, qui provoquent des troubles, mais qui apparaissent dans un délai de 6 heures après le repas. Mais ça peut même être un jour, deux jours. Alors ça, ils sont très méchants parce qu'ils ont fait leur travail de destruction en douce. C'est les amanites, mais il n'y a pas que des amanites. Alors, je vais être plus précis concernant les champignons dangereux. Pour le Diwa, dans le Diwa, et puis dans la Drôme aussi, vous avez 4 champignons qui peuvent être mortels. Il y a un petit champignon qu'on appelle la lépiote brune. C'est un tout petit champignon qui ressemble à un grand champignon qui lui est comestible, qu'on appelle la coulmelle. La lépiote brune peut être mortelle. Un cortinaire. Un cortinaire, c'est les champignons qui ont une espèce des petits filaments entre le chapeau et le pied. On appelle ça une cortine. Le cortinaire à couleur de rocou, c'est brun fauve. Il peut être mortel. De manière générale, les cortinaires, il ne faut pas les ramasser parce qu'ils sont très compliqués, très difficiles à déterminer. L'antholome livide, qui est un très beau champignon à de belles lamelles roses et qui a une très bonne odeur de farine fraîche, peut être mortel. Par chance, il frappe tout de suite, mais il est très dangereux. Et le paxil enroulé, c'est un champignon qui, à 20 ans, était considéré comme comestible. Et maintenant, on le considère comme extrêmement dangereux. Et on le reconnaît parce qu'il a des lamelles sous le chapeau qui se détachent très facilement. On appelle ça le paxil enroulé. Voilà, ces 4 champignons sont mortels. Et vous en avez d'autres, malheureusement, bon, qui ne sont pas mortels, mais qui quand même vous rendent bien malade.
Une bonne indigestion.
Vous avez le seul bolet vraiment dangereux, qu'on appelle le bolet Satan. Le nom est bien trouvé. Un gros bolet énorme qui a des pores rouges, que l'on trouve dans le Diwa, certains endroits. Vous avez une clavère. Les clavères, c'est des champignons bizarres qui ressemblent à des petits arbuscules avec des petits filaments. On appelle ça les crêtes de coque aussi. Il y a une clavère, la clavère Ramer formosa, qui est très laxative. Les clavères sont aussi également très difficiles à déterminer, il faut faire attention. Et il y en a d'autres, hein. Il y a un petit champignon, le mycène rose, avec des petites lamelles roses, qui est dangereux. Alors dans le Diwa, il n'y a pas beaucoup d'amanites, parce que le Diwa est très calcaire, et les amanites, en général, n'aiment pas tellement le calcaire. Mais il y a un énorme champignon blanc, qu'on appelle l'amanite orange blanche, qui est comestible, mais malheureusement, les amanites ont des champignons qui ont une volve, c'est-à-dire un sac à la base du pied. Toutes les amanites sont comme ça. Et pour cette amanite, il y a une variété qui a une volve rousse entièrement et puis un pied plutôt élancé. Celle-là, elle est toxique. Donc, il faut faire très attention. Par précaution, tous les champignons qui ont un sac à la base du pied, il ne faut pas les ramasser. Et puis, il y en a d'autres qui sont toxiques. Alors, il y en a qui sont simplement indigestes. Un champignon qui est très fréquent dans le Diois, l'ébellum échaudé, il est indigeste. Un tricholome qui est blanc et brun, c'est-à-dire qu'il a le pied brun, puis en haut du pied c'est blanc, il est indigeste. De très nombreuses russules et des cortinaires sont indigestes. D'abord, dans les livres, on met champignons comestibles. C'est toujours comestible cuit, toujours. Il y a les champignons qui sont comestibles cuits, mais toxiques, crus. Mori, par exemple. Voilà. Donc, il faut ébouillanter les champignons. Et autre difficulté, il y a eu des problèmes avec des champignons comestibles, mais ramassés au bord des routes très fréquentées. Alors là, c'est un autre problème, c'est que les champignons peuvent concentrer des métaux toxiques. Or, le long des routes très fréquentées,
le plomb,
il y a du plomb,
exemple.
il y a des métaux toxiques. Dans les décharges ou les anciennes décharges, il peut y avoir des poussées de champignons, parce que le sol est favorable aux certains champignons. Ils peuvent être toxiques. Donc, ramasser aucun champignon, finalement, près des routes très fréquentées, autoroutes, routes nationales. L'autre problème, c'est qu'ils peuvent concentrer aussi la radioactivité. Pour Tchernobyl et Fukushima, tous les champignons, à mon avis, je ne sais pas si des études très précises ont été faites à ce niveau-là, aucun champignon ne va pouvoir être ramassé sur une période de 10 000 ans.
Sur quelle zone, ici, Adi, sommes-nous touchés ?
Adi, non. Parce qu'on est loin de Fukushima, on a quand même été assez loin de Tchernobyl, bien que le nuage soit quand même passé sur le Diois et le Vercors, mais il ne semble pas qu'il y ait de problème. Je dois dire qu'on manque quand même, je ne sais pas si une étude existe, si des scientifiques ont fait systématiquement l'étude des champignons qui sont autour des centrales nucléaires. Elle devrait être faite. D'autant que tous les champignons ne concentrent pas les métaux toxiques et la radioactivité de la même manière. Il y en a qui concentrent plus que d'autres. C'est la même chose pour les plantes, d'ailleurs. C'est un problème d'avenir, je dirais. Mais les métaux toxiques, il faut vraiment faire attention. Moi-même, ça m'est arrivé une fois d'être intoxiqué par des coprins chevelus, qui est un bon champignon comestible qu'il faut cueillir très jeune, mais il est bon parce que c'était une ancienne décharge. Et je n'avais pas repéré ça.
On va faire un petit récapitulatif. Donc, ne pas ramasser les champignons au bord des routes des décharges.
Les routes très fréquentées, sur la petite route de campagne, elle n'a pas de problème.
Éviter les champignons qu'on ne connaît pas.
La première règle du cueilleur de champignons, c'est bien connaître les 15 champignons qui sont très dangereux. Et après, bien connaître ceux que vous ramassez. Par exemple, un champignon qui est très fréquent sur le Diois, qu'on appelle le petit gris. Tout le monde connaît le petit gris, il est très bon, etc. Bon, il y a quand même une confusion possible. Le petit gris, c'est le tricholome terreux. Et il y a quand même une confusion possible avec le tricholome tigré. Alors, c'est vrai que moi, je n'en ai pas trouvé dans le Diois. J'en ai trouvé que sur le Vercors. Mais la couleur du chapeau est la même. Simplement, le tricholome tigré, c'est un gros champignon. Il est plus gros, il a un pied plus gros. Les méchules sur le chapeau ne sont pas les mêmes. Il y a des petites méchules, tandis que le petit gris, il a des fibrilles rayonnantes. Bon. Mais il faut connaître le tricholome tigré avant de ramasser le petit gris, parce qu'on ne sait jamais.
Si des fois l'un de nos auditeurs mangeait un champignon qui lui serait toxique, quelle préconisation tu peux lui faire ?
Il faut appeler le SAMU. Il faudrait avoir encore des exemplaires du champignon que l'on a mangé. Parce que, bien sûr, les méthodes de traitement ne sont pas les mêmes selon les types d'empoisonnement.
Oui, l'antidote adapté aux champignons.
Oui,
quoi.
Oui. Oui, oui.
Alors maintenant que tu nous as bien effrayés avec toute cette dangerosité, on va aborder l'aspect positif du champignon, voilà. Parce qu'il y en a quand même.
Il y en a beaucoup. Je dirais même qu'il y a plus de côtés positifs que de côtés négatifs. Le côté utile constructeur des champignons, c'est le rôle symbiotique que l'on sous-estime. Il y a deux façons pour les champignons d'être symbiotiques. Il y a ce qu'on appelle les mycorhizes. Les mycorhizes, rhizes, ça veut dire racine. Myco, c'est filament. Donc les champignons envoient leurs filaments dans les racines ou à la surface des racines des arbres, mais de façon utile. C'est-à-dire que le champignon, par ses mycorhizes, augmente la capacité d'absorption de l'eau de l'arbre. Des fois dans un facteur 100 fois plus d'absorption d'eau grâce aux mycorhizes. Et il donne aussi à l'arbre des sels minéraux et puis certaines vitamines. Inversement, l'arbre donne aux champignons, ce qu'il ne peut pas fabriquer, des sucres, du glucose et puis des acides aminés, des acides gras, des lipides, voilà. Mais le bénéfice est réciproque. Résultat, l'arbre se porte mieux quand il est mycorhizé et se porte moins bien quand il n'est pas mycorhizé. Bon, tous les arbres ne sont pas mycorhizés, mais il y en a vraiment beaucoup qui le sont. La majorité des arbres sont mycorhizés. L'autre association positive, ce sont les lichens, qui sont une symbiose entre des algues, cette fois-ci, et des champignons, qui souvent sont des ascomycètes. Alors, les lichens, ben, en fait, sont les éléments les premiers à fabriquer les sols. Donc les terres fertiles. Si on a des sols, c'est parce que les roches ont été attaquées par l'érosion. Mais les premiers qui attaquent les roches, donc qui participent à la libération des sols, et ce sont les lichens. On appelle ça des organismes pionniers. Les lichens sont aussi utiles parce qu'il y en a qui élaborent des colorants. Donc dans les teintures, on utilise des lichens. Il y a ça aussi. Et puis les lichens sont, on appelle ça des bio-indicateurs de pollution. Qui sont très sensibles à la pollution, mais de façon différente selon l'espèce de lichen. Donc on peut faire une graduation de la pollution atmosphérique en étudiant s'il y a telle espèce de lichen ou s'il n'y a pas. Dans les centres des grandes villes, il n'y a plus de lichen. Parce qu'ils sont tués par la pollution. Alors, vraiment, le rôle fondamental des champignons, c'est évident, c'est qu'ils nous permettent de manger. Pas de champignons, pas de pain. Les levures sont des champignons. Dans ce qu'on appelle le levain, en fait, il y a une association entre des champignons et des bactéries lactiques. Donc le levain, c'est vivant. Donc les bactéries lactiques, elles assurent une acidification. Et les champignons, les levures, font lever la pâte. Donc la pâte ne lève que par le travail de fermentation alcoolique, d'ailleurs, hein, de la levure. Donc il fait lever la pâte. Puis comme on cuit, après c'est très chauffé, l'alcool s'évapore. Le deuxième grand utilité, ben, c'est le vin. Pas de champignons, pas de vin. Hein. Donc c'est un rôle économique et non négligeable, en France par exemple. Hein. Et c'est des levures à nous. Je suis allé voir l'œnologue de la cave de Zaillance, Philippe Daguizy, qui m'a donné quelques renseignements pour la clairette. Pas de champignons, pas de clairette. Donc la clairette, eh ben, on utilise des levures. Il y en a une qui m'a été dite, c'est le Saccharomyces uvarum, qui est une levure qui travaille à froid. On dit qu'elle est cryophile. Elle travaille à basse température et donc elle fait la fermentation alcoolique. Alors dans la clairette, on arrête la fermentation. Elle n'est pas menée jusqu'au bout, contrairement au champagne. C'est ce qui explique le fait que la clairette ait un faible degré d'alcool. Et puis vous avez aussi les champignons. Alors ça, c'est le rôle toxique. Il y a des champignons qui attaquent la vigne, par contre. Hein, j'en ai pas parlé, mais l'oïdium attaque la vigne, donc on le combat par le soufre. Et les mildiou, qui sont des genres de champignons, maintenant on les met en dehors des champignons, mais enfin ils ne sont pas loin, on les combat par sulfate de cuivre. Donc il y a aussi ce travail au niveau des vignerons du Diwa, de lutter contre les champignons, mais aussi, grâce aux champignons, ils ont leur clairette. Ben, autre aussi qualité, ben, c'est les fromages.
Ouais, c'est ce que
tout
j'allais
le monde
dire.
C'est très bien.
Pas de champignons, pas de pain, pas de vin, pas de boursin.
Voilà, pas de boursin. Bon, ben, on sait très bien que quand vous consommez du roquefort, le caractère bleu là, sont des champignons. Donc on consomme des champignons qui donnent au fromage leur qualité. Bon, alors là, c'est vrai que le champignon ne fabrique pas le fromage, mais il lui donne sa qualité gastronomique. Et la pellicule du camembert, la pellicule des bris, là, il y a des champignons qui sont des pénicilliums en général, et les pénicilliums sont des ascomycètes. On est en plein dans les champignons. La mère du vinaigre, c'est des amas de champignons de type levure là-dedans. Donc ça aussi, c'est le caractère vraiment fondamental, un rôle économique fondamental. Hein, si on additionne le pain, le vin, les fromages, ça fait beaucoup d'emplois. Hein. Alors bien sûr, on peut cultiver les champignons. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que alors là, la science traîne au niveau de la culture des champignons. C'est très complexe, mais bon, tout le monde connaît qu'on cultive le champignon de Paris. Environ 1 million de tonnes de champignons de Paris qui sont vendus par an, donc c'est important. Il y a aussi le pleurote en forme d'huître, voilà, ça c'est un champignon. Il y a un champignon japonais, là, qui est également
champignon noir.
Champignon noir qui est élevé. Bon, il y en a quelques autres, hein, comme ça. Et alors, bien entendu, on ne sait pas le cultiver de la même manière que le champignon de Paris, mais c'est la truffe, bien sûr. Hein. On est à la période des truffes, maintenant. Les truffes sont des champignons, hein. On appelle ça des rabassos en patois. Donc, la Drôme est l'un des départements les plus producteurs de truffes. Et depuis, d'ailleurs, une trentaine d'années, on voit à quel point la production des truffes, les champs de chênes truffiers, ont augmenté en surface.
Et alors, justement, pour rebondir, qui dit truffe dit chêne ?
Pas uniquement chêne. Les plantations sont en effet essentiellement des chênes. Mais on peut avoir des truffes sous des tilleuls, sous d'autres arbres. Il n'y a pas que les chênes. Mais c'est vrai que le chêne est très largement majoritaire. Ben, la truffe fait des mycorhizes, hein, sur les racines des chênes. Elle est utile pour les chênes. Alors, ben, y a des gens qui vont rêver, mais c'est vrai qu'un kilo de truffe, le prix s'appelait de 250 € à 2 500 €. Ça dépend des... Parce qu'il y a une vingtaine d'espèces de truffes. Il y en a trois, en gros, que l'on utilise vraiment. Mais il y a une vingtaine d'espèces.
Hein. Et ici, dans la région d'Ivoire,
ici, c'est ce qu'on appelle la truffe noire du Périgord. C'est surtout celle-là que l'on utilise. Ben, ça peut rapporter des sous. Hein. On considère qu'en gros, qu'une truffière, théoriquement, hein, mais ça dépend aussi de la qualité de l'agriculteur, peut rapporter à peu près 5 000 € par an pendant 15 ans. C'est quand même intéressant. Hein, bien sûr, il faut s'occuper de ces chênes. On reconnaît que le chêne a des truffes, donc on le reconnaît parce que sous le chêne, il n'y a plus d'herbe. On appelle ça le brûlé. C'est dû au fait que les truffes fabriquent des herbicides qui font que les herbes ne poussent pas sous les chênes truffiers. Alors, manque de chance, il y a ce qu'on appelle des brûlés fertiles et des brûlés stériles, parce qu'il y a d'autres champignons qui ont le même effet. Donc, ce n'est pas forcément parce que vous avez un brûlé que vous avez des truffes. Mais c'est quand même un signe.
C'est une indication.
Ouais. Alors, bien sûr, bon, on sait qu'on ramasse les truffes grâce aux chiens truffiers, qui sont spécialement éduqués, aux cochons truffiers. Et puis, il y a aussi notre astuce, c'est une petite mouche qui pond ses œufs dans les truffes. Donc, quand vous voyez cette petite mouche, ça veut dire qu'il y a peut-être des truffes. Voilà. Mais c'est pas évident. Il y a toujours eu des truffes dans le Diwa, hein, parce que les anciens disent oui, là, il y avait des truffes, etc. Donc il y a toujours eu de façon naturelle, hein, mais maintenant ça se développe de façon organisée.
Quelles sont les périodes de prédilection ?
Ah ben, pour la truffe, c'est maintenant, là, ça commence maintenant, et puis ça dure tout l'hiver. Voilà. Bon, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Alors, bien sûr, la truffe, c'est l'appareil reproducteur du champignon. On appelle ça un péridium. Hein. C'est les ascospores sont dans la truffe. Vous mangez des ascospores quand vous mangez des truffes. Alors, l'autre côté, c'est les antibiotiques. Hein.
L'un des aspects positifs encore. Hein.
Donc, les antibiotiques sont fabriqués par des champignons. Donc, les champignons sécrètent autour d'eux des substances pour lutter contre les bactéries, parce que les bactéries attaquent les champignons. Donc les champignons se défendent contre les bactéries en sécrétant des antibiotiques. Alors c'est surtout des champignons qu'on appelle les pénicilliums, mais il y en a d'autres, qui fabriquent les antibiotiques. Dans les antibiotiques, on considère qu'il y a deux catégories d'antibiotiques, en simplifiant. Il y a les antibiotiques bactéricides, c'est-à-dire qui tuent les bactéries, et les antibiotiques bactériostatiques qui s'opposent à la prolifération des bactéries. Bon, c'est donc deux catégories. Alors, il faut savoir, bien sûr, hein, tout de même, que les antibiotiques ont des effets secondaires.
Hein. Donc, on parlait de mycose, justement, tout à l'heure. Hein, voilà. ça peut déséquilibrer...
L'excès d'antibiotiques, il faut faire attention. Les antibiotiques peuvent provoquer des nausées, des diarrhées. Bon, il y a des effets secondaires. Mais, ils sont indispensables dans certaines maladies provoquées par les bactéries. Et elles sont nombreuses. Une petite liste, hein, les pneumonies, les amygdalites, des endocardites, les salmonelloses, les méningites, la lèpre, la tuberculose, la coqueluche, le tétanos, la diphtérie, le botulisme, tout ça, c'est des bactéries et les champignons sont utiles. Enfin, les antibiotiques des champignons sont utiles. Donc vraiment, les antibiotiques ont sauvé des millions de gens. Et en particulier pendant la guerre de 40-45, ils étaient utilisés pour les blessures. L'infection des blessures, voilà, ils ont un rôle fondamental. Donc, ils participent aussi à l'industrie pharmaceutique.
Quand a-t-on découvert justement les vertus antibiotiques des champignons ?
Il y a plusieurs personnes, disons, qui ont découvert ça, un peu par hasard, en oubliant des cultures et puis en voyant qu'autour d'amas de pénicillium, il y avait comme une auréole sans bactéries. Donc, ils se sont dit, bah, tiens, c'est bizarre, pourquoi les bactéries n'envahissent pas tout ? Voilà. Ça s'est découvert un peu par hasard et par observation. À partir de là, toutes les études se sont développées. Alors, le problème que l'on a maintenant, malheureusement, c'est qu'il y a des bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques. Ça, c'est un problème qui commence à être grave. Par exemple, pour la tuberculose, on a des tuberculoses résistantes et il y a des recherches en cours. Et puis, heureusement, on a une gamme assez large, mais c'est un problème. Alors, les champignons ont eu une autre utilité, ils l'ont toujours, c'est leur rôle scientifique. Hein. Il y a un champignon qui est un ascomycète, qu'on appelle le Neurospora crassa, qui nous a permis de faire un nombre important de découvertes en génétique, au niveau des gènes, de l'ADN. Ce champignon qui a une reproduction assez simple, enfin, bon, il facilitait certaines études et on a fait des découvertes scientifiques importantes grâce à ce champignon, de même qu'on a fait plein de découvertes grâce à la souris. Voilà. C'est un matériel d'étude pour les scientifiques. En biochimie aussi, d'importantes découvertes ont été faites grâce aux champignons qui sont très étudiés, vu leur rôle d'antibiotique, très étudiés. Un autre aspect, alors plus anecdotique, des champignons, on peut appeler ça l'ethnomycologie, c'est que vous avez un champignon, c'est un champignon qui est moche comme tout, on appelle ça l'amadouvier, il est dur comme du bois, ça pousse sur des troncs, et les hommes préhistoriques se sont aperçus, donc il y a 30 000 ans, qu'en coupant l'amadouvier en lamelles, et puis en ajoutant du salpêtre, ça prenait feu très facilement. Donc, ils ont trouvé une méthode pour fabriquer le feu plus facile, semble-t-il, mais j'ai jamais essayé, plus facile qu'avec en tapant des silex. Parce que taper des silex au tenu de feu, ce n'est pas si évident que ça. Et ils ont eu du feu grâce à un champignon qu'on appelle l'amadouvier.
Qu'est-ce que tu appelles dans le Diois. Le salpêtre.
Le salpêtre, c'est ce qui est dans les caves, là. C'est ce qui est sur les murs des caves. C'est une matière qui s'enflamme facilement.
Donc ça, c'est un bon petit truc à savoir quand même.
Voilà. il faut se méfier du salpêtre. Hein. Attention, c'est dangereux. Hein. Ça fait partie des explosifs. C'est dangereux. Et puis, vous avez aussi les champignons, vous savez, qui sont hallucinogènes. Certaines peuplades, dans leur rituel, utilisent les champignons hallucinogènes. Ça fait partie de rituels religieux. En Amérique du Sud, surtout en Amérique d'une manière, mais ailleurs aussi. Bon, mais là, il faut être aussi extrêmement prudent parce qu'il y a des champignons hallucinogènes. Ils ne sont pas seulement hallucinogènes, ils sont toxiques. Ils sont toxiques. Ils modifient la conscience, ils font partir dans l'inconscient, mais c'est extrêmement dangereux. Et je déconseille d'utiliser ces champignons-là. Alors, on peut terminer parce que le bon côté que tout le monde connaît, c'est la mycogastronomie. Enfin, c'est le petit plat de champignons que l'on se fait.
Donc il y a des spécificités d'Iwaze.
Il y a des spécificités d'Iwaze. Alors, dans le Diois, moi personnellement, j'en ramasse une dizaine quand même, hein, de bons champignons. Alors, il y a un champignon qu'on appelle le mousseron, c'est connu. Il n'y en a pas tant que ça dans le Diois. C'est un petit champignon qui est un peu marron, qui pousse dans les prés. Hein, en général, les gens vont ramasser les champignons dans les bois. Mais en fait, il y en a quelques-uns dans les prés. Donc le mousseron, on appelle ça le mousseron de printemps, c'est un bon champignon qui se sèche facilement. Alors le cèpe de Bordeaux, bien sûr, hein, mais on n'en trouve pas dans le Diois. Il y en a quelques-uns dans le Vercors. Bon, le Diois n'est pas favorable au cèpe de Bordeaux et au bolet bronzé. La morille, ça c'est un champignon de printemps, hein, que l'on trouve en effet dans le Diwa. Alors les gens ne disent jamais où ils trouvent leur morilles, ça fait partie des secrets. Les rosées des prés, bon, tout le monde connaît le rosé des prés, il y a des rosées des prés, ça ressemble au rosé des prés et c'est comestible, sauf ceux qui jaunissent au frottement. Donc si vous ramassez dans un pré ce qui vous semble être un magnifique rosé des prés, d'abord vous frottez son chapeau, si jaunit, vous laissez tomber, il est indigeste. Alors le petit gris, hein, le trichelum terreux, est un bon champignon à condition de connaître le trichelum tigré qui lui est toxique. J'en ai jamais trouvé dans le Diwa, semble-t-il c'est plutôt côté Isère. Et dans le Jura, il y en a beaucoup plus. Le pied de mouton, lui ça s'appelle l'hydne sinué. Alors lui, il a une bonne qualité, c'est qu'une fois qu'on l'a reconnu, on ne peut pas se tromper. Parce qu'il a des aiguillons sous le chapeau, des petites aiguilles, hein, et il est de couleur crème. Donc un champignon qui a des aiguilles sous le chapeau et qui est de couleur crème, c'est du pied de mouton. C'est un bon comestible. Simplement, il est toujours plein d'aiguilles de pain. Il faut une brosse, il faut bien le frotter. Il y a une préparation. Il est embêtant de ce côté-là. La truffe, bien sûr, hein, bon champignon. Les girolles sont plutôt dans le Vercors. C'est un bon champignon aussi. Alors, qu'on appelle dans le Diwa, on appelle ça la craterelle.
La chanterelle.
La chanterelle. On dit craterelle. C'est chanterelle en trompette. C'est un très bon champignon. Avec de la crème fraîche, par exemple. Alors, manque de chance, cette année, on ne sait pas une année à Cratrel. Il n'y aura pas de Cratrel en 2012 ou très, très peu. Alors, c'est un mystère. Hein. Pourquoi il y a des années sans et des années avec, on ne sait pas du tout. Alors, il y a le champignon. Alors, ça, c'est les Diwa de souche qui connaissent celui-là. On appelle ça le baveux, parce que c'est tout baveux. C'est gluant sur le dessus. Le nom exact, c'est l'hygrophore limace. Bon, il faut bien le connaître. Il n'y a pas trop de risque d'erreur. Le coprin chevelu, c'est un champignon que l'on peut ramasser à condition qu'il soit jeune. Parce que quand il est âgé, de toute façon, c'est dégoûtant, ça devient un liquide noir. C'est horrible. Donc, c'est ramasser jeune. Et pour les bolets, alors il y a quelques bolets que l'on peut quand même ramasser. On appelle ça les bolets jaunes. Mais moi, le seul que je trouve plutôt bon... On appelle ça la nonnette voilée. C'est un petit bolet jaune, c'est-à-dire qu'il a les pores sont jaunes. Et il a une espèce de voile autour du pied. C'est-à-dire que le pied a une espèce de voile qui se relie au chapeau. Des fois, la voile est partie, mais il y a une petite trace noire. On appelle ça la nonnette voilée. C'est un bon petit champignon. Alors, il y en a d'autres aussi, hein. Il y en a 4-5 espèces, mais il faut bien les connaître. Ça, c'est ceux qui sont bons. Il y en a d'autres qui sont comestibles. On ne peut pas dire qu'ils sont gastronomiques, mais ça se mange. Il y a un petit champignon qu'on appelle le laquer amétis, un tout petit champignon qui est violet de la tête aux pieds. Bon, ça se mange, mais ce n'est pas extraordinaire. Le bolet granulé, pareil. Et il y en a où il faut faire attention. Parce que le problème que l'on a, c'est que tout de même, les gens sont très différents les uns des autres au niveau immunologique. Hein. On peut avoir 100 personnes qui supportent bien un champignon, et puis il y en a une qui le supporte moins bien. Donc ça, il faut quand même le savoir.
Nous ne sommes pas égaux face aux champignons.
Voilà. Donc pour tous ces champignons, il faut faire attention. On déconseille de ramasser des champignons qui sont gelés. Je ne sais pas trop pourquoi. Probablement parce qu'ils sont trop vieux aussi. Comme ils sont tardifs, ils sont trop vieux. Ne ramassez que des champignons jeunes, en bon état. Quand ils sont verrés, on les jette. Hein. Bon, c'est sûr que quand vous allez manger des champignons, peut-être que vous allez manger un asticot ou deux. Hein, parce qu'il y en a des tout petits.
Mais il y a des protéines.
Bon, ouais, ouais.
Y a-t-il un site ou un livre de référence?
Il y a beaucoup de livres. Hein. Bon, il y a un livre que l'on considère comme assez de bonne qualité. L'auteur, c'est quelqu'un qui s'appelle Bon. Il y a un autre livre de quelqu'un qui s'appelle Courtecuisse. Il faut savoir, par exemple, le courtecuisse, c'est des photos hein, pour le courtecuisse. Puis la description du champignon, il y a 2000 espèces. Il y a des amateurs qui se passionnent pour les champignons. Alors, il y a des associations hein, de mycologues.
Alors, on va y venir justement. Donc, vous avez effectivement des éditions de livres très bien conçues qui vous aideront à identifier, messieurs, dames, les champignons comestibles, des toxiques, etc. Et puis sinon, dans le Diwa, il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Des associations, effectivement, qui s'occupent du champignon. On va évoquer justement les expositions que certaines associations l'association d'Iwaze nous propose alors ?
Alors, il y a une association qui est à Montélégère. Donc ça, c'est l'association mycologique de Montélégère où il y a des réunions, par exemple le lundi, où les gens peuvent venir et puis on donne des conseils. Puis on leur donne le nom des champignons. Il y a de bons spécialistes dans ces associations mycologiques de Montélégère. Cette association organise tous les ans une grande exposition de champignons. Cette année, ils avaient réussi à avoir 450 espèces différentes de champignons sur la Drôme, l'Ardèche. Voilà. Donc tous les ans, ils ont une exposition annuelle. Alors cette année, à Die, pour la première fois depuis assez longtemps, il y a eu une exposition à la salle polyvalente organisée par l'Association des Amis des Arts, par moi-même et par Daniel Nall. On s'y est pris un peu tard, mais on a quand même eu 350 visiteurs pour l'exposition du mois d'octobre à Die, hein, en 2012. Et on avait 150 espèces différentes de champignons. La difficulté, c'est d'avoir les bons spécialistes qui vous disent à coup sûr, ça c'est le nom. Mais ce n'est pas évident. Vous avez des associations, alors à Luz-la-Croix-Haute, hein, il y a une grande exposition de champignons, hein, à Luz-la-Croix-Haute, à Grenoble aussi, voilà.
Allez, des questions sur le champignon. Qui contacter dans le Diwa et le Crétois ?
Donc, il y a l'association des Amis des Arts et du musée de Die. Le numéro de téléphone, ça serait plutôt le mien. Donc, c'est le 04 75 21 02 00. Et puis, vous pouvez laisser vos coordonnées à Radio Diwa.
Jean-Claude Rouchouze, merci de toutes ces précisions. C'est un cours sur le champignon que tu nous as offert là. Donc j'espère que les auditeurs d'Air Diwa se sont régalés. En tout cas, régalez-vous avec du bon champignon. Moi, je vous dis à très bientôt et merci Jean-Claude.
Merci.
Interview. 1.
Hey, the bird.
L'interview du jour.